VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Présidentiel au Cameroun, l'examen des recours introduits auprès du Conseil constitutionnel par les candidats de l'opposition qui réclament l'annulation totale ou partielle du scrutin présidentiel du 7 octobre s'achève en principe ce mercredi. Au cours de la première journée d'audience hier, toutes les requêtes examinées ont été rejetées par les 11 membres du tribunal. Plus de détails avec le correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Requête irrecevable. La phrase a été répétée à 16 reprises par le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana au cours de l'audience qui s'est déroulée sous haute sécurité à Yaoundé. Requête irrecevable de l'opposant Maurice Kamto qui a recusé 5 membres du Conseil constitutionnel pour délit d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis du RDPC, le parti du président Paul Biya. Les 5 sont encore membres du comité central ou du bureau politique du RDPC ont soutenu la dizaine d'avocats réunis par l'opposant Maurice Kamto. Après 2 heures de plaidoirie, la décision susceptible d'aucun recours est tombée. Requête irrecevable. Aucun commentaire de Maurice Kamto, visiblement déçu après cette décision. La suite de l'audience a donné lieu au même classique. Toutes les requêtes ont été jugées irrecevables, soit pour non-conformité au code électoral, dépôt hors délai, disqualification du requérant ou encore absence des preuves de dénonciation d'irrégularité lors du scrutin. Ce mercredi, 2 derniers recours vont être examinés. Un du parti de Maurice Kamto, demandant l'annulation du scrutin présidentiel dans 7 régions sur 10, parmi lesquelles les 2 zones anglophones, et un autre recours du candidat du Social Démocratique Front, Joshua Oshi. Sauf surprise de dernière minute, le Conseil constitutionnel devrait valider l'élection présidentielle du 7 octobre dernier et publier les résultats officiels au plus tard, le 22 octobre prochain. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, envisage d'engager des négociations avec les rebelles ougandais des ADF qui sèment la terreur dans la province du Nord Kivu dans l'est du pays. C'est ce qu'a déclaré mardi la chef de la mission onusienne, Leila Zerougui. Le point avec Irénée Hermann Ongbo.
C'est ma conviction, je ne crois pas qu'un groupe qui est dans ce pays depuis les années 80, on peut le vaincre uniquement par les armes, a indiqué Leila Zerougui lors d'une conférence de presse. Selon elle, les négociations peuvent se faire dans la mesure où l'on dit déposer les armes. La responsable de la MONUSCO dit ne pas prôner l'impunité, elle entend plutôt explorer tous les moyens visant à mettre fin à la souffrance des populations. Les ADF sont historiquement des rebelles ougandais musulmans, hostiles au président Yoweri Museveni, installé dans l'est de la RDC. Ils sont tenus responsables depuis octobre 2014 de la tuerie de centaines de civils, dont 235 rien que depuis début 2018, et de 15 casques bleus dans la région de Beni. Ces hommes armés occupent des zones entières, font beaucoup de mal à l'armée congolaise et menacent les paisibles citoyens. Ils ont récemment enlevé un casque bleu et personne ne sait s'il est vivant ou mort.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, il a fallu près de 8 mois après les élections locales pour installer les conseils communaux. Mais le processus progresse lentement malgré un accord politique signé le 8 août. L'opposition, qui parle de mauvaise foi du pouvoir, a appelé à des journées villes mortes qui ont conduit à des manifestations violentes à Conakry. Un jeune a été tué par balle mardi dans la banlieue de la capitale, selon plusieurs sources. De Conakry, les précisions de notre correspondant Zakaria Kamara.
L'opposition et la mouvance avaient accepté de régler les contentieux par un consensus, mais l'installation des élus locaux, qui a démarré il y a seulement quelques jours, ne fait pas que des heureux. Les responsables de l'opposition guinéenne accusent leur adversaire politique de trahison, de violation de l'accord. L'installation se fait au compte-gouttes et l'opposition qui a perdu certaines communes qui devaient lui revenir selon sa propre lecture de l'accord du 8 août crie à la corruption et à l'achat de conscience. Des faits suffisants pour appeler à des journées villes mortes lundi et mardi. Des perturbations ont été signalées sur l'axe Le Prince. Plusieurs sources parlent de la mort d'un jeune qui aurait été touché par balle. Les forces de l'ordre étaient visibles dans cette partie de la capitale pour empêcher les jeunes manifestants de mettre des barricades ou encore de brûler les pneus. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest maintenant, quatre pays de la sous-région, Burkina Faso, Bénin, Togo et Niger, veulent conjuguer leurs efforts pour combattre ce fléau. D'où la rencontre de leurs ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité mardi à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Les intéressés ont promis d'engager des actions concrètes dans un proche avenir. Les détails avec Lamine Traoré, le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou.
L'Est du Burkina Faso est le nouveau bastion du terrorisme depuis plusieurs mois maintenant. Cet endroit fait frontière avec les trois autres pays, le Niger, le Bénin et le Togo. Les quatre pays veulent désormais coopérer. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina.
Les chefs d'État de ces quatre pays ont souhaité qu'il y ait des actions concertées, des opérations conjointes à ces frontières-là pour donc endiguer la menace terroriste qui est dans cette région depuis le mois de février en ce qui concerne la partie du Burkina. Voir quelles sont les actions que nous pouvons mener ensemble, les échanges d'informations qu'il peut avoir, comment est-ce qu'on peut développer des formes de coopération en termes de renseignements.
Le Bénin et le Togo, même si ces deux pays ne sont pas directement touchés par le terrorisme, comme leurs voisins du Burkina et du Niger, ressentent tout de même les conséquences des attaques. Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères du Bénin.
Lorsqu'il y a une action terroriste, que ce soit à Ouaga ou sur le territoire du Niger, nous le ressentons fortement. Nos peuples sont très proches, les espaces sont contigus, nous essayons de prendre aussi nos dispositions.
L'Est du Burkina est propice à l'expansion du terrorisme. C'est dans cette zone qu'on trouve les parcs du W et de la Pendiari, des lieux prisés par les terroristes. Il faut donc protéger cette zone et les pays veulent anticiper. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur du Bénin.
Pendant longtemps, c'est dans le Sahel que ça se passe. Mais on a vu l'évolution vers l'est du Burkina, qui est la zone boisée du Burkina, qui est aussi une zone boisée au Bénin, une zone boisée au Niger. Nous voulons anticiper pour que cette zone boisée ne soit pas un sanctuaire où les terroristes viendront se cacher.
C'est le même sentiment que partage Kala Ankuraou, le ministre des Affaires étrangères du Niger.
Les terroristes, ils veulent s'incruster, constituer des sanctuaires et être difficiles à déloger. Et de ces sanctuaires-là, en fait, ils pourraient attaquer n'importe quel de nos quatre pays. À partir de ce moment, nous sommes tous et de la même manière concernés. Nous sommes arrivés à des conclusions extrêmement positives. Le temps nous donnera raison.
Les quatre pays promettent des actions fortes dans les prochains jours. Le terrorisme a fait plus de 230 morts en 3 ans au Burkina Faso, selon un dernier bilan du gouvernement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Niger, 45 personnes sont mortes dans des inondations depuis le début de la saison des pluies, selon un bilan de l'ONU. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus.
La situation globale des inondations à la date du 30 septembre fait état de 45 morts et plus de 208 000 personnes sinistrées, d'après le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey, citant des statistiques du ministère nigérien de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes. Cette année, Niamey a été épargné avec seulement 469 personnes sinistrées. En revanche, la région de Dosso, dans le sud-ouest, a enregistré le plus de sinistrés, suivi de celle d'Agadez, dans le nord, pourtant désertique. 17 décès ont été enregistrés pour la seule ville d'Agadez.
Coronavirus de l'Afrique maintenant. En Éthiopie, le Premier ministre réformateur Abiy Ahmed a nommé un nouveau gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la parité homme-famille est strictement respectée et le portefeuille de la défense a été confié à une femme. Le point avec Nathalie Barge.
Les femmes occupent des postes clés dans ce gouvernement réduit à 20 postes de ministres, dont celui de la paix, nouvellement créé, du commerce et de l'industrie et de la défense. La nouvelle ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, est la première femme à occuper ce poste dans le pays. Elle était auparavant ministre de la Construction après avoir été au tourisme. Madame Mohamed n'est toutefois pas la seule femme à la défense sur le continent. La centrafricaine Marie-Noëlle Koyara et la kényane Rachel Omamo remplissent actuellement ces fonctions. Le nouveau ministère de la paix a été confié à Moufériat Kamil, ancienne présidente du Parlement. La précédente équipe comptait 28 ministres, dont 5 femmes. L'Éthiopie est le deuxième pays africain, après le Rwanda, à établir la parité au sein du gouvernement.
Et pour terminer, au moins 18 morts et plus de 40 blessés, dont une majorité d'adolescents. Tel est le bilan de l'explosion d'un engin non identifié ce mercredi dans un collège en Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par la Russie. Merci de votre attention.